Vous écoutez
RMC.
Jeudi 28 mai.
L'info sur RMC.
Il est 8h02. Merci d'être avec nous. Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Pourra-t-on faire ce qui nous plaît dans quelques jours? Fini les 100 km, réouverture des bars et restaurants, plus d'élèves accueillis dans les écoles. Édouard Philippe annoncera à 17h la phase 2 du déconfinement. Paul Barcelone nous dira que certaines zones vont rester rouges. Nous aurons aussi aujourd'hui un nouvel indicateur pour savoir si et comment circule le virus. Santé publique France centralise tous les tests virologiques menés dans notre pays. Et puis un moment de grâce à la fin de ce journal où un concert a été donné hier à la Philharmonie de Paris. Pas de public, mais beaucoup d'émotions. Bonjour à tous, oui, bienvenue sur RMC. C'est pour quand la liberté de mouvement? À 17h, Édouard Philippe va préciser la nouvelle phase du déconfinement. Les derniers arbitrages sont toujours en cours. On verra cela en détail dans un instant avec Paul Barcelone. Mais d'abord, direction Lyon et ses petits bouchons. Les restaurateurs devraient rouvrir dans les zones vertes. Reste maintenant à connaître les consignes du gouvernement. Reportage pour RMC de Florence Donjon.
Dernier coup de peinture pour Yves Cardone, gérant de ce bouchon lyonnais depuis 26 ans. Après plus de 2 mois de fermeture, il n'espère qu'une chose, rouvrir son établissement.
Nous attendons avec impatience justement les ordres et les demandes de l'État. Et on n'aura plus que 5 jours pour les mettre en place. Nous avons d'ores et déjà prévu de distancer l'État de plus en plus.
En clair, 32 couverts au lieu de 67 habituellement. Un manque à gagner pour ce restaurateur qui emploie 3 personnes à temps plein. Il mise donc sur ses 25 couverts en extérieur, d'autant que l'emplacement est offert par la municipalité cette année.
Pas contre sur notre terrasse et du beau temps pour pouvoir améliorer nos conditions de travail.
Même espoir pour Didier Chastan, à la tête du Faisan Doré à Villefranche-sur-Saône, mais teinté d'inquiétude, notamment pour ses 11 employés.
33 couverts au lieu de 60, ça veut dire qu'il va falloir laisser des gens au chômage partiel, ce qui n'est pas évident.
Mais l'envie de redémarrer est bien là pour Ludivine Guénaud, responsable de salle.
On a vraiment très très hâte de pouvoir rouvrir et de pouvoir refaire le lien avec notre clientèle.
Une clientèle fidèle et avide de convivialité, le restaurant compte déjà 10 de réservations pour le premier week-end de juin.
Autre question à laquelle le Premier ministre devrait répondre cet après-midi, c'est la limite des 100 km imposée depuis 2 semaines et demie maintenant. Paul Barcelone du service politique d'RMC est avec nous. Paul, est-ce que cette mesure va évoluer?
Oui, augmentation significative promet le gouvernement. L'autorisation des déplacements pourrait aller jusqu'à 300 km autour de son domicile dès mardi prochain. C'est l'une des pistes envisagées hier lors d'un dîner à l'Élysée, mais rien n'est tranché. L'exécutif veut faire du cas par cas. Regardez département par département, et même si le virus circule de moins en moins, eh bien la carte de France du déconfinement devrait donc rester en partie en rouge aujourd'hui, notamment pour certaines zones en Île-de-France. Cela ne devrait pas empêcher la réouverture de tous les parcs et jardins, peut-être avec des masques obligatoires, et la reprise des spectacles, potentiellement dès le mois de juin, avant la réouverture des cinémas pour début juillet.
Autre interrogation, celle de l'ouverture des lycées.
Avec en priorité l'ouverture des lycées professionnels, le ministre de l'Éducation nationale planche aussi sur la réouverture des collèges dans les zones rouges. Vous savez que les collèges en zone verte ont rouvert pour les élèves de 6e et 5e depuis 10 jours. En revanche, selon nos informations, le gouvernement envisage d'annuler l'oral du bac de français. C'est une piste. Prudence, là encore, rien n'est acté définitivement. Réponse tout à l'heure à 17h.
Merci Paul, les députés.
C'est une info importante que donne Paul. Oui. Annulation probable, hein, Paul de...
Ah, oui. C'est l'une des pistes.
Très intéressant parce que... il y a une inquiétude, il y a une inquiétude et une interrogation.
Les députés et sénateurs ont donné leur feu vert hier soir au lancement de l'application Stop Covid. L'application devrait être disponible ce week-end. Si vous avez des symptômes du coronavirus ou que vous avez été en contact avec un malade, vous pouvez, vous le savez, peut-être gratuitement et rapidement vous faire dépister. Plus de 3000 laboratoires et CHU proposent des tests virologiques. Et le taux de tests positifs doit d'ailleurs être dévoilé aujourd'hui par Santé publique France. Hier à Saint-Denis, plusieurs heures d'attente pour faire ces tests, comme l'ont constaté pour RMC Marie Monnier et Maxime Brandstatter.
Sous un soleil de plomb, sur une place proche de la mairie, la file d'attente est interminable. 25 à 30 personnes sont testées toutes les heures.
Je peux passer là ?
C'est bientôt au tour d'Élie, 68 ans.
Ça fait 4 heures que j'attends pour faire le test du Covid.
Derrière lui, Atouma est plus inquiète, même si elle a respecté à la lettre les mesures de sécurité sanitaire.
En fait, c'est surtout pour me rassurer.
Sous un chapiteau, il y a Pierre, étudiant en médecine. Sur blouse, masque, lunettes de protection, il effectue les tests PCR.
On appelle ça un écouvillon. Mais du coup, c'est un grand coton-tige, en fait.
Et du coup, on va aller au fond du nez, d'accord, pour récupérer un petit peu de sécrétion qu'on va analyser derrière. Voilà, je retire.
Pour Pierre, qui dépiste depuis un mois les populations à risque, cet élargissement au grand public est essentiel.
Jusqu'à maintenant, on était surtout attribué dans des endroits à risque, que ce soit EHPAD, des maisons médicalisées. C'est depuis peu de temps qu'on nous attribue des missions ouvertes à tous. Ce genre de test est très important, notamment pour prévenir l'apparition de nouveaux foyers, pour essayer de contrôler une potentielle seconde vague.
Dans ce département très touché par l'épidémie, les résultats des tests et la proportion de cas positifs sont très attendus par les autorités.
Toujours plus de vélos, le gouvernement triple la mise et porte à 60 millions d'euros le fonds créé fin avril pour inciter les Français à la pratique de la bicyclette, annonce de la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne. Plus de vélos, plus de trains, mais moins d'avions. Air France annonce la réduction de 40% de sa capacité sur ses vols en France d'ici à 2021. Plusieurs destinations pourraient être supprimées. Les lignes qui relient Orly à Bordeaux, Nantes et Lyon pourraient ainsi être concernées. Des réductions de capacité qui doivent permettre à la compagnie de réduire de 50% les émissions de CO2. Va-t-on vers une ouverture totale des frontières pour les pays voisins de la France? Les règles sont pour l'instant très strictes. Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des affaires européennes, était ce matin sur RMC. Elle souhaite que les restrictions soient levées à partir du 15 juin.
L'objectif qu'on s'est fixé, c'est qu'au 15 juin, on puisse regarder la situation et qu'on puisse effectivement, à ce moment-là, si la situation sanitaire le permet, eh bien rétablir une plus grande fluidité à nos frontières.
Fluidité, ça veut dire que cet été, probablement même, on pourra partir en vacances en Espagne, en Italie.
Nous, on aimerait bien, on essaye de donner des dates crédibles. Et donc la date qu'on a tous en tête, c'est le 15 juin. Il faut que ça puisse être confirmé
le 15 juin.
Par la situation sanitaire à nouveau.
RMC 8h09, la courbe de la pandémie continue de s'accélérer au Brésil. Plus de 25 000 morts, 400 000 cas confirmés. Les États-Unis ont franchi le cap des 100 000 victimes du Covid-19. Un bilan nettement supérieur à tous les autres pays du monde. Dans le pays où les rassemblements se multiplient après la mort de George Floyd, un Afro-Américain d'une quarantaine d'années. Il est décédé après une arrestation brutale par des policiers dont la vidéo est devenue virale. Sa famille demande à ce que ces policiers impliqués soient inculpés pour meurtre. Gladys Lafitte.
Arrêtez-le et nous rentrerons chez nous, scandent des dizaines de manifestants comme Ariana, réunis devant la maison de l'un des quatre policiers blancs impliqués dans la mort de George Floyd, afro-américain de 46 ans.
On en a tous marre, être ici c'est normal, on dirait que c'est quasiment tous les jours que ces faits se produisent. Et rester chez soi, poster sur les réseaux sociaux, ça ne va rien changer.
Des policiers assassins pour Ariana qui ne comprend pas qu'ils puissent être en liberté même s'ils ont été renvoyés.
Honnêtement, pour moi, ils devraient être condamnés à la prison à vie ou à la peine de mort, ils ont pris une vie qu'ils rendent une vie en retour.
À l'autre bout du pays aussi, des centaines de personnes envahissent l'autoroute de Los Angeles en signe de protestation. Deux voitures de police sont même prises à partie. Les manifestants qui, comme les proches de la victime, demandent à ce que justice soit rendue.
À retenir également dans l'actualité, un homme a tué trois personnes de son entreprise sur le site d'exploitation d'une carrière à Saint-Varan dans les Deux-Sèvres. Un quatrième salarié a été blessé. Le tireur a retourné l'arme contre lui. Il venait d'être déclaré inapte au travail. À présent, écoutez bien ce qui va suivre, ça ne peut que vous faire du bien. Le premier concert donné hier soir par l'Orchestre de Paris à la Philharmonie, il a été diffusé en direct sur Arte Concert et sur Internet. Pas de public, mais des émotions fortes pour cette formation très réduite, Rémi Inc.
Dès les premières notes, la libération pour les musiciens.
On avait l'impression de vivre en apnée depuis un petit moment et là, on a eu une grande bouffée d'air.
Philippe Aïche, premier violon solo de l'Orchestre de Paris, a passé une soirée mémorable.
Ça a été des frissons, ça a été une grande joie intérieure. C'est irremplaçable de se retrouver sur une scène. Oui, on a eu le sentiment que c'était reparti. Oui.
Un début de retour à la normale. Les instruments se répondent, la musique se mélange au point d'avoir presque la sensation de se toucher entre musiciens.
Il y a un contact qui est immatériel, qui, ne qui, à mon avis, n'est pas vecteur du moindre virus, sinon l'amour de la musique. Donc, ça marche très, très bien. On a besoin de ça. Sans ça, on meurt.
Le musicien a maintenant une hâte, celle de retrouver son public.
Je pense qu'il y a un vrai besoin de musique, un vrai besoin de retourner au spectacle. On fait partie de la société, on fait partie d'une économie aussi. Donc, on a besoin de reprendre.
Un nouveau concert aura lieu ce soir à la Philharmonie. Toujours pas de public, mais cette liberté retrouvée et cet espoir de jour meilleur.
Reportage de Rémi Inc. Ça se passe de commentaires.
Oui, beau reportage. Il est 8h12, ça fait du bien.
Ça fait du bien. 8h12, merci, merci d'être avec nous. Allez, tout à l'heure, je recevrai le professeur Karine Lacombe. Tout à l'heure sur RMC et BFM TV. Je vous invite à l'écouter. Elle est chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine. Vous l'avez vu, entendu à de très nombreuses reprises depuis le début de la crise sanitaire. Eh bien, nous serons cet après-midi. Vous savez ce que le gouvernement nous réserve pour les jours qui viennent. Je vais lui demander où en est l'épidémie. Est-elle derrière nous? Est-elle contrôlée? C'est une course dans la durée. Nous en parlerons avec Karine Lacombe. Je lui parlerai de l'hydroxychloroquine, évidemment. Je lui parlerai de l'immunité. Et notamment de l'immunité croisée. Mais il y a un homme qui travaille sur l'immunité croisée qui est avec nous. Il s'agit du professeur Éric Vivier, professeur d'immunologie à l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Professeur Vivier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ça marche très bien. Professeur Vivier, ce matin, ça va très bien. Je suis très content de vous recevoir et de parler de l'immunité croisée. Alors, je vais expliquer à l'auditeur rapidement, mais vous, vous savez tellement mieux que moi. L'immunité croisée, c'est quoi ? Pour faire simple, j'ai, il y a quelques mois, j'ai eu un petit rhume. J'ai un petit virus, un petit coronavirus qui traînait. J'ai eu un petit rhume ou petite grippette à peine, Et il se pourrait que grâce à ce petit rhume ou à cette petite grippette, je sois immunisé contre la Covid-19. C'est cela, professeur ?
Oui, tout à fait. Alors peut-être c'est important de récapituler des éléments qui sont majeurs dans l'organisation de la réponse immunitaire pour mieux comprendre ce que c'est que cette immunité croisée. Il faut savoir que dans le système immunitaire, on a des milliards de cellules. Certaines de ces cellules s'appellent des lymphocytes et qui sont responsables de notre immunité. Mmh. Mais en fait, on a deux types de lymphocytes, hein, comme vous le savez, des lymphocytes B qui vont faire des anticorps et des lymphocytes T qui, dans le cas du Covid-19, vont pouvoir tuer des cellules qui sont infectées par les virus. Et bien, il se trouve que l'une des beautés du système immunitaire et de notre immunité, c'est que les systèmes de reconnaissance de ces cellules qui vont leur permettre de reconnaître les virus et les microbes de manière générale, ils préexistent à la rencontre du microbe. En l'occurrence, vous n'avez jamais vu un microbe, eh bien vous avez déjà des récepteurs sur vos cellules qui vont vous permettre de rencontrer ce microbe, de reconnaître ce microbe, ce qui est quand même, c'est quand même absolument incroyable. Et donc grâce à ça, eh bien effectivement, vous avez tout un répertoire de reconnaissance qui vous permet de reconnaître tel ou tel microbe. Alors, dans le cas que vous évoquez, effectivement, les coronavirus, hein, puisqu'on parle d'eux, ce sont des virus avec lesquels on vit depuis très longtemps, ce sont des agents classiques, en particulier des rhumes de l'enfant, mais pas que. Et donc, si on a rencontré un coronavirus, mais même un autre microbe, eh bien, la réponse immunitaire que l'on a montée là, elle peut nous servir pour reconnaître mieux et plus efficacement le coronavirus dont on parle à l'heure actuelle. C'est ça l'immunité croisée.
Ouais, et ça intéresse. C'est formidable, professeur Vivier. C'est formidable à plusieurs titres. C'est formidable parce que ça pourrait, je dis bien ça pourrait, restons au conditionnel, comme toujours, hein, évidemment, ça pourrait expliquer pourquoi les enfants sont moins sensibles à la Covid-19, par exemple.
Alors c'est une des hypothèses. Encore une fois, je suis bien content que vous mettiez des conditionnels, puisque tout le monde voudrait des affirmations dans le cadre de cette épidémie, alors qu'en réalité c'est un nouveau virus et qu'il faut prendre extrêmement de précautions avant d'affirmer quelque chose. On est dans une science qui est en mouvement, les connaissances, on les a tous les jours un petit peu plus, mais pour autant il faut prendre des précautions. Donc oui, vous avez raison, cette immunité croisée pourrait nous permettre d'expliquer que certains groupes d'individus, pas simplement les enfants, sont plus résistants à l'infection que d'autres.
Voilà. Et puis, dites-moi, c'est prometteur pour, dans le futur, un vaccin ?
Alors, oui, enfin, de toute façon, le fait de trouver un vaccin est quelque chose d'extrêmement important, hein. C'est évidemment le seul moyen que l'on pourrait avoir de se prévenir de cette pathologie. C'est tout ce qu'on peut dire là.
Oui, une autre question quand même, professeur, qui me vient à l'esprit. Immunité, donc certains d'entre nous seraient peut-être, je dis bien encore une fois, conditionnels, peut-être immunisés, mais une immunité qui durerait combien de temps ? On ne connaît pas la durée de l'immunité.
Maintenant, on ne la connaît pas pour ce nouveau virus, puisqu'encore une fois, il s'agit d'un nouvel agent pathogène.
Oui.
Ce qu'on espère, c'est que l'immunité que l'on développe suite à la rencontre avec le virus, elle dure effectivement longtemps. On sait que dans certains cas, par exemple, si vous rencontrez la varicelle quand vous êtes petit, eh bien, vous n'allez plus jamais faire de varicelle de votre vie, sauf une situation exceptionnelle. Et donc, on sait que l'immunité peut avoir une mémoire et donc peut garantir une protection tout au long de la vie. Là, dans le cas de ce coronavirus, on ne sait pas. On espère au moins que l'immunité puisse durer quelques mois. Mais ce sont des données, encore une fois, qu'on est en train d'accumuler. Donc, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.
Quel plaisir de vous écouter. Merci beaucoup, professeur Vivier. Mais quel plaisir, hein, professeur d'immunologie à l'assistance publique, hôpitaux de Marseille, directeur scientifique de la société INAD Pharma. Quel plaisir, parce que vous êtes clair et on apprend tous les matins quelque chose. J'adore ça. Merci beaucoup. Merci. Il est 8h18. Vous êtes sur RMC et RMC Découverte. Pour savoir et comprendre, vous réagissez comme Eric, par exemple. Vous savez, 3216, c'est notre lien. Vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. Eric, qui va nous parler de sa situation qui n'est pas facile. Et puis, tout à l'heure, avec Guillaume Paul, nous allons parler du chômage partiel, avec une idée qui sera peut-être annoncée, une info importante la semaine prochaine, annoncée par le gouvernement. Vous allez tout savoir dans 2-3 minutes. C'est cela, hein, Mathieu ?
C'est exactement ça.
Vous avez beaucoup de messages, beaucoup. Hein.
Oui, je vais vous en lire sur les frais bancaires, tiens, dont nous parlait Marie Dupin, un plafonnement des frais bancaires.
Il est 8h18.
RMC, Bourbon Direct.
Ce sont des sénateurs, hein, plusieurs parlementaires qui proposent un plafonnement des frais bancaires, des agio par exemple. Bounty nous écrit, c'est une très bonne idée parce que beaucoup de personnes en difficulté sont souvent les seules à subir ces frais des banques. Ça va leur permettre de se refaire une santé, selon Bounty. Mathieu nous dit, je trouve que les banques devraient carrément supprimer les agio. C'est lamentable qu'elles se fassent de l'argent toujours sur les plus modestes. Valentin nous dit, c'est vrai que quand tu reçois le courrier en fin d'année et que tu vois écrit 1 600 € de frais, tu rigoles jaune. Tu changes vite de banque, surtout que maintenant il y a des banques avec 1 € pour les frais de compte. Jean-Xavier nous dit, rien de plus rentable pour les banques qu'un client sans le sou. Moins il en a, plus on t'en prend. Pour Catherine, il faut faire un rappel, les frais ont été plafonnés, 25 € pour les plus fragiles en réponse aux gilets jaunes. Ça a marché quelques mois, dit Catherine, et puis ça a été vite abandonné malgré de nombreux courriers de justificatifs jamais remis en place. Alexandre lui est conseiller bancaire et dit, c'est pas mal aussi de faire du cas par cas, d'avoir un bon rapport avec son conseiller bancaire selon le dossier du client.
RMC 6h-9h.
Bourbon Direct. Avec, il est quelle heure ? Il est 8h23. Avec, avant de donner la parole à Guillaume Paul, l'emploi. Parce que Guillaume Paul va nous parler de l'emploi. Mais je me tourne vers Quentin Vinel. Les Français sont très nombreux à craindre pour leur emploi.
9 Français sur 10 se disent inquiets par la situation économique du pays, au point d'en perdre son travail. C'est effectivement la crainte pour 4 Français sur 10, 39% exactement, selon le dernier sondage ELAB pour BFM TV. Les plus touchés, les jeunes, ils sont 1 sur 6 à être privés d'emploi en raison de la pandémie, selon l'Organisation internationale du travail.
Éric s'inquiète. Éric est à Nice. Bonjour Éric.
Bonjour Jean-Jacques.
Éric, dites-moi, quelle est votre inquiétude, voilà. Éric ?
Voilà Jean-Jacques, je suis taxi niçois.
Oui.
Et je veux aujourd'hui témoigner, au lendemain de l'allocution de notre président, les 55 000 taxis de France ont répondu présent.
Oui.
Présent le lendemain. Transport gratuit du personnel hospitalier, bénévolat auprès de nos anciens. Aujourd'hui, c'est un cri d'alarme de la profession que je suis en train de pousser. J'appelle, moi aujourd'hui, taxi niçois, mais ça pourrait très bien être un taxi de Lyon ou de Marseille. Aujourd'hui, le terminal 1 de l'aéroport de Nice est fermé jusqu'en décembre. Aujourd'hui, le terminal 2 ne reçoit que 5 vols par jour. Les prévisions pour le mois de juin sont de 15 vols par jour. Mais c'est pareil à Marseille. Les bateaux de croisière ne viennent pas. Aujourd'hui, c'est une crainte pour les locataires, taxis, qui ne peuvent plus payer leur loyer, pour les propriétaires qui ont des crédits sur leur licence. Nous n'en avons eu que très peu d'aide. Quand je dis très peu, nous n'en avons eu que le fonds de solidarité de 1 500 €.
Oui.
Nous avons eu un report de charges.
Oui.
Ce qui veut dire, pour moi, je parle pour moi, quand ça vous amène un exemple, je paye 1 500 € d'URSSAF par mois. Ce qui veut dire que dans mon report, au 4 juin, je dois payer 750 € de plus de mes 1 500. Nous avons eu, concernant les autos que nous avons, c'est-à-dire nos stands de commerce, c'est notre voiture. Concernant les taxis qui ont des crédits dans les concessions, c'est-à-dire mettons chez Mercedes ou chez Renault, nous avons eu que des échelonnements de paiement, ce qui veut dire que au 4 juin, je dois payer 750 euros de crédit de mon véhicule, plus encore 750 euros du mois de mars qu'on m'a retiré. En plus, 90 euros de frais qui m'ont justement, vous parliez de frais bancaires, 90 euros de frais par mois supplémentaires. Nous n'avons juste un petit point.
Vite, Eric, parce que le temps presse.
Nous avons été exclus par le gouvernement de toute aide au tourisme. C'est-à-dire que les caristes, eux, ont eu un effacement des charges sociales. Bourdin, c'est d'être notre voix. Vous savez que tous les taxis de France vous écoutent.
Eric, je vais être votre voix. Je vous le promets, je m'engage à cela. Merci. Je vais être votre voix, comme je l'ai été pour les assureurs. Pas contre les assureurs, mais pour pousser les assureurs à intervenir et à faire plus d'efforts. Je vais être votre voix et vous ne serez pas oublié. Je peux, je veux pas vous dire, je vous le garantis, mais je vais tout faire pour que, effectivement, parce que quand je vous écoute, j'en ai froid dans le dos. Je vous le dis. Je pense que le 15, vous avez entendu Amélie de Montchalin, je pense que le 15 juin, les touristes européens vont pouvoir venir en France, ce qui sera pour vous un peu d'oxygène. Hein.
Mais, je l'espère.
Moi aussi, je l'espère. Mais j'en suis sûr si la situation sanitaire s'améliore. Bon, Eric, je vous promets, je vais vous reprendre. Tiens, demain, je vais vous reprendre et on complétera, d'accord?
Merci.
À demain, à la même heure. 8h27, Guillaume Paul, le chômage partiel, tiens. Oui. On sait que les règles vont changer à partir de lundi prochain, 1er juin. Mais le gouvernement, vous avez une info, réfléchit déjà à l'étape d'après.
Oui, alors, à partir de lundi prochain, l'État ne prend plus en charge que 85% du chômage partiel. Mais après, il y a une équation pour le gouvernement. D'un côté, on sait qu'on ne pourra pas maintenir le chômage partiel pendant des années, oui, des années, mais on sait que si on arrête tout du jour au lendemain, vous avez des activités, des secteurs, l'auto, l'aéronautique, d'autres secteurs, si vous arrêtez du jour au lendemain, c'est une catastrophe sur le plan social. Donc il faut trouver quelque chose d'intermédiaire. Et là, le gouvernement est en train de réfléchir à un dispositif un petit peu hybride qui consisterait à dire à toutes ces entreprises, écoutez, vous avez des salariés dont vous savez que vous n'allez les faire travailler que quelques heures ou quelques jours par semaine pendant encore au minimum plusieurs mois. Eh bien, les licenciez pas, c'est pas grave. Payez-leur les heures qu'ils font, l'État paiera toutes les heures qui ne sont pas effectuées. L'État paiera toutes les heures qui ne sont pas effectuées. Et alors, il y a quand même quelques conditions. L'État dit en revanche, en retour, vous ne licenciez pas. Et toutes les heures qui ne sont pas évidemment, mais toutes les heures qui ne sont pas travaillées, elles doivent pas être perdues. C'est-à-dire que là, vous devez prendre l'engagement de faire le maximum sur la formation de vos salariés pour les former aux évolutions de leur métier, pour être sûr qu'ils seront le plus réemployables. Faire de la conversion, de la formation et de la reconversion. Vous savez, c'est ce dont on a parlé avant-hier dans le secteur automobile. Oui, tous ces sous-traitants en région qui sont restés au diesel, pardon de le dire comme ça, qui doivent accélérer sur l'hybride, voire la voiture électrique. Et ben, c'est là-dessus aussi qu'on va les attendre très clairement. Donc ça, le ministère du Travail pour en dire un peu plus là-dessus la semaine prochaine.
C'est très très intéressant, le ministère. Donc 40% prise en charge à peu près.
Ça doit être réglé. On va jauger. Oui,
autour de 40% de prise en charge du salaire par l'État, ce qui est énorme ce qui est énorme, et le reste par l'entreprise, évidemment. L'entreprise aidée.
Mais vous évitez les licenciements.
Mais on interdit le licenciement.
Absolument.
Ça me paraît une excellente idée. On aura l'occasion d'y revenir. On en saura plus la semaine prochaine.
A priori, le ministère du Travail devra en dire un peu plus.
Eh bien, merci Guillaume Paul pour cette info, vraiment. Dans un instant, merci à toute l'équipe, encore une fois, réunie ce matin. Mathieu Roux à 4h30 et Quentin Vinet qui m'accompagne, Charles Magnin, Anaïs Castagna et toute l'équipe qui est là pour vous servir, pour vous apporter cette information. 3216, notre lien, vous êtes avec nous. Nous sommes avec vous. Et dans un instant, je suis avec le professeur Karine Lacombe, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Ça va être passionnant, croyez-moi. Nous allons faire le point sur l'épidémie. À tout de suite. Anne-Sophie Balbière est là pour les dernières informations. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques. Bonjour à tous. Sous forte pression pour desserrer les taux, Édouard Philippe présente l'acte 2 du déconfinement à 17h. L'exécutif envisage la réouverture le 2 juin des hôtels, cafés, restaurants en zone verte. En revanche, en zone rouge et donc à Paris, ils ne pourraient rouvrir leurs portes que le 1er juillet. Le gouvernement va porter à 60 millions d'euros le fonds qu'il a créé fin avril pour inciter les Français à la pratique du vélo, annonce ce matin de la ministre de la Transition écologique. écologique Elisabeth Borne. Et puis Air France KLM veut réduire de 40% son offre sur les vols nationaux d'ici à 2021 avec la fermeture de plusieurs liaisons, celles où il y a une alternative ferroviaire à moins de 2h30. De son côté, EasyJet annonce une réduction de ses effectifs jusqu'à 30%. Il est 8h31. Dans un instant, Karine Lacombe, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFM TV.
RMC Bourdin Direct,
Jean-Jacques Bourdin. Professeur Karine Lacombe, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. Nous nous sommes déjà vus à distance, mais maintenant nous sommes ensemble ici. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Nous saurons cet après-midi, Karine Lacombe, ce que le gouvernement a décidé pour la deuxième phase du déconfinement à partir du 2 juin. Réunion du conseil scientifique maintenant là.
Exactement.
Hein? Ça vient de commencer.
Voilà.
Et le conseil scientifique va donner ses recommandations. Bien. Est-ce que vous recommandez ce matin un déconfinement total ?
Probablement pas total. Alors évidemment, je ne vais pas me prononcer à la place du conseil scientifique et du gouvernement, mais il ne sera probablement pas total. On a quand même des indicateurs qui sont plutôt verts un peu partout en France, même en Île-de-France, hein, bien meilleurs que ce que l'on a vu il y a quelques semaines. Donc, il est inévitable que le déconfinement va encore être allégé, mais il ne sera pas total.
Oui.
On peut par exemple se poser la question de ce qu'il va être annoncé pour les restaurants, les bars, etc.
Est-ce que vous êtes favorable à une réouverture des restaurants, des bars, franchement, en zone rouge, dans les fameuses zones rouges?
Oui, dans ce qui persiste encore des zones, alors qu'ils sont beaucoup moins rouges, hein, maintenant, ils sont plutôt orange-verte, je pense.
Oui, vous pensez à tout l'est de la France. Quoi.
Voilà, ça va être pour l'instant compliqué. J'espère qu'en tout cas, ce sera le cas peut-être un peu plus tard pour l'été, ou alors dans certaines circonstances, avec le grand air, les terrasses, etc. On va voir, on attend avec impatience nous aussi.
Voilà, vous attendez quoi? Vous attendez de savoir si l'épidémie est vraiment derrière nous? C'est ça? Est-ce qu'elle est derrière nous, l'épidémie?
Ça reste encore un peu compliqué. On voit bien qu'il y a encore des personnes qui sont dépistées, hein, positives. On voit qu'en tout cas, à l'hôpital, les choses se sont extrêmement améliorées. On a quasiment plus de personnes qui arrivent avec un diagnostic de Covid.
Ah bon?
Pratiquement plus. C'est vraiment une excellente nouvelle. Tous les dépistages qui sont faits positifs sont plutôt des dépistages faits dans les centres de dépistage en ville. Mmh. Il y en a encore un peu à l'hôpital, mais ce sont souvent des personnes qui ont déjà été dépistées et qui gardent un virus pendant plusieurs semaines pour beaucoup de raisons, en particulier celles qui sont très immunodéprimées. Mais vraiment, on n'est plus du tout, on est très loin de la situation qu'on a pu connaître.
Oui, je regardais les derniers chiffres donnés hier. Chaque heure, 2 Français sont encore transportés en réanimation pour Covid-19.
Hein? Alors effectivement,
2 Français chaque heure. Bon.
C'est extrêmement peu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont beaucoup, dans la plupart du temps, des personnes qui avaient vraiment des pathologies très lourdes au préalable. Par exemple, des personnes qui étaient immunodéprimées dans le cas de cancer, qui prenaient des traitements pour ces cancers-là, et qui donc avaient des. Ce n'est pas du tout ce que l'on a pu voir comme profil de risque en février-mars.
Alors, professeur Karine Lacombe, depuis le 11 mai, 17 jours. Se sont passés 17 jours.
Voilà.
17 jours, c'est bien, ça suffit pour une durée d'incubation.
Exactement.
Donc, est-ce qu'on a constaté un rebond depuis 17 jours?
Non, on n'a pas constaté de rebond, ce qui laisse quand même présager que l'on est dans une dynamique positive de contrôle de l'épidémie. Alors attention, il y a encore des cas groupés, vous savez, ces fameux clusters que l'on a la chance de pouvoir maintenant détecter, puisqu'on a de façon très large accès au PCR, ces outils diagnostiques, et qui nous permettent de circoncire ces clusters, de faire en sorte que les personnes dépistées puissent être isolées et éviter que l'épidémie ne se propage dans le reste de la population. Mmh. Donc on a un ensemble de clusters que l'on dépiste, que l'on isole, de façon à ce que l'épidémie ne reprenne pas avec la virulence qu'elle avait en mars.
Alors les tests, il y en a aujourd'hui beaucoup, tests de dépistage au niveau national, taux de positivité, je vous le donne, 2,3%. Quelle signification ce chiffre ?
Alors, les tests dont vous parlez, ce sont les tests sérologiques.
Sérologique,
qui permettent de voir qu'on a été exposé il y a plus de 15 jours au moins au virus.
Oui.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont deux enseignements. Déjà que la pénétration du virus dans la population totale, dans toute la France est assez faible. C'est quand même plus élevé dans les régions qui ont été très touchées, comme le Grand Est et l'Île-de-France. Mais de façon générale, on voit que le virus a peu pénétré dans la population. Et l'autre question que l'on peut se poser, c'est est-ce que toutes les personnes qui ont été en contact avec le virus ont développé des anticorps? Ça, c'est encore une grande inconnue. Probablement que des personnes qui ont rencontré le virus, mais qui ont fait peu de symptômes, n'ont pas forcément développé des anticorps qui sont détectables avec les sérologies. Que les sérologies ont un seuil de détection en dessous duquel elles ne vont pas détecter les anticorps, même s'il y en a. Alors, ces seuils sont très faibles, hein, donc a priori, quand on a rencontré le virus, on devrait avoir des anticorps, à moins qu'on n'en ait pas fabriqué. Il y a pour plusieurs raisons qui peuvent toucher à notre patrimoine génétique ou au virus lui-même.
Alors, professeur Karine Lacombe, c'est très très intéressant parce que on avance avec ce virus, on en sait sans cesse un petit peu plus, et on en sait un peu plus sur un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est l'immunité. Et, fameuse immunité. On en sait un peu plus. Les patients atteints d'une forme légère de la Covid-19 sont immunisés. C'est ce que nous dit une étude très intéressante de l'Institut Pasteur. C'est cela, professeur?
Alors, effectivement, l'autre question que l'on se posait, à laquelle fait référence l'Institut Pasteur, c'est qu'on peut avoir des anticorps et qu'éventuellement, ces anticorps ne neutralisent pas le virus. Ça, c'était la grande question. Parce que si on a des anticorps qui ne neutralisent pas le virus, ça veut dire que si on rencontre de nouveau le virus, on ne sera pas protégé. Et en fait, ce que l'Institut Pasteur a montré, c'est que ces anticorps finalement sont neutralisants. Et ça, c'est une excellente chose.
Alors, nous, on l'avait vu. Je précise, 160 patients, hein, si j'ai bien compris, de deux hôpitaux de Strasbourg, c'est 160, non, pas patients, soignants, de deux hôpitaux de Strasbourg ont contracté le virus, forme légère, hein, Covid-19, un mois après la maladie, présence d'anticorps. C'est ça qui est très intéressant, hein, un mois après la maladie. Et 98%, dans 98% de ces patients, on a retrouvé des anticorps neutralisants.
Exactement.
Ça veut dire quoi, neutralisant?
Donc neutralisant, c'est-à-dire que quand quand on met ces anticorps in vitro, hein, donc dans les tubes à essai, en contact du virus, eh bien le virus est neutralisé, c'est-à-dire qu'il ne se multiplie plus. Ce qui veut dire que vous-même, si vous avez ces anticorps neutralisants, vous rencontrez de nouveau le virus, eh bien vous ne développerez pas de nouvelles infections. Ces anticorps agissent comme une barrière contre le virus. Ça, c'est une très bonne nouvelle.
Oui, c'est une des nouvelles les plus importantes de ces derniers jours, cette étude de l'Institut Pasteur. Protection qui va durer combien de temps?
C'est la grande inconnue. On ne sait pas. On sait quand même que les protections, les anticorps neutralisants contre les autres coronavirus peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains d'entre eux, 2-3 ans. Il y a des anticorps qui ne durent que quelques mois, par exemple pour la grippe. C'est la raison pour laquelle tous les ans, il faut se vacciner de nouveau contre la grippe. Donc on ne sait pas encore, puisque on a très peu de recul avec ce virus. On a 4-5 mois de recul. Donc on ne sait pas encore, on va voir.
On ne sait pas encore.
D'où l'intérêt des études qu'on leur dit prospectives, c'est-à-dire qu'ils vont suivre les patients qui présentent des anticorps avec des dosages réguliers pour voir pendant combien de temps ces anticorps persistent.
Alors justement, puisqu'on parle d'immunité, espoir aussi autour de l'immunité croisée. C'est très intéressant, j'en parlais ce matin sur RMC avec professeur Marseillais qui travaille dessus. C'est pas le professeur Raoult, hein, c'est un autre professeur. Alors j'ai été infecté par un autre coronavirus. J'ai eu un petit rhume il y a quelques mois ou une petite grippe, mais rien de grave. Il est possible que je sois immunisé contre la Covid-19, contre ce coronavirus.
Alors effectivement, dans l'immunité que l'on dit croisée, il y a deux types d'immunité. L'immunité croisée, c'est quand on a des anticorps contre une autre maladie et que finalement ces anticorps marchent un peu contre le coronavirus.
Donc parce qu'un rhume, c'est un autre coronavirus.
Absolument. Donc effectivement, les coronavirus ont des similitudes entre eux. Ils ont des particules virales, des protéines qui sont les mêmes d'un virus à l'autre. Et quand on développe des anticorps contre ces protéines, eh bien ça peut nous protéger contre les mêmes protéines d'un autre virus.
Est-ce que ça peut expliquer que les enfants... Ça peut peut-être expliquer que les enfants sont peu touchés.
Tout à fait, ça peut être une des raisons, absolument.
C'est vraiment... Et puis,
c'est passionnant.
C'est passionnant, puis les résultats peuvent être importants aussi pour une stratégie vaccinale, j'imagine.
Absolument. Non. Alors c'est vrai que la recherche vaccinale sur le coronavirus est en plein essor. Il y a eu énormément d'argent qui a été investi parce que l'enjeu est très important.
Oui, évidemment.
Pour prévenir une résurgence de ce virus dans les années à venir. Donc le fait d'avoir une immunité croisée, de développer un vaccin qui va être spécifique de ce vaccin-là, mais qui peut éventuellement protéger contre les autres coronavirus, ça peut être tout à fait intéressant.
Alors, professeur Lacombe, on vous a accusé de relations commerciales avec les laboratoires. Oui, ça existe, les relations commerciales. Vous avez travaillé en relation avec des laboratoires et vous avez été rémunéré pour cela, vous l'avez dit, à propos de recherches sur le sida, je crois.
Hein, oui, c'est ça, le VIH tout, et les hépatites
est-ce
virales.
Est-ce que tous les chercheurs de France, tous les médecins comme vous à vos postes-là, sont parfois rémunérés? Est-ce que le travail est essentiel, le travail entre les médecins de terrain et les laboratoires? C'est important?
C'est absolument essentiel. Nous leur apportons notre expertise sur ce que l'on voit au quotidien, sur les maladies, sur l'évolution des maladies, et eux mettent au point des traitements qui vont nous permettre de guérir les malades que l'on prend en charge à l'hôpital. Donc c'est évident qu'il faut avoir des relations, mais il faut que ces relations soient transparentes, il faut qu'elles soient encadrées de façon à ce que ça ne soit pas de la corruption. Très important.
Oui.
Il y a une énorme différence entre le fait d'avoir des liens d'intérêt, que ça se passe en toute transparence avec des lois qui encadrent extrêmement bien les choses, et la corruption où on touche de l'argent sous-main pour faciliter, par exemple. Est-ce que maintenant ça existe encore? Je pense que c'est avec toutes les règles qui ont été édictées par les lois, le Conseil de l'Ordre, les employeurs des médecins. Voilà, probablement qu'il y a longtemps avant que vraiment j'exerce dans le milieu, ça a probablement existé. C'est pour ça que ces lois de transparence justement existent. Mais maintenant, il est absolument impossible de cacher les liens d'intérêt que l'on peut avoir.
Et c'est très bien cette transparence. Ou comme Didier Raoult, ou comme d'autres, travaillent avec des laboratoires.
Et bien sûr, tout le monde. Alors après, il y a par exemple des médecins comme moi qui déclareront directement nos liens d'intérêt en toute transparence. Oui. Et puis après, il y a d'autres mécanismes où on peut, par exemple, et c'est ce qui se passe avec certains médecins, très probablement, où les laboratoires versent de l'argent à une fondation. C'est cette fondation va prendre en charge différents frais des médecins, et là les médecins ne déclarent plus directement. Donc là, on est dans moins de transparence, on va dire.
Bien, l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine, un antipaludéen associé à un antibiotique, c'est ça, hein?
Oui.
C'est ça. L'association de médicaments recommandée par le professeur Didier Raoult. Alors, compte tenu des résultats de diverses études internationales, moi je ne vais pas entrer dans les résultats, je n'y connais rien, simplement. Le gouvernement, suivant le Haut Conseil de Santé Publique, a abrogé l'autorisation de prescription de l'hydroxychloroquine dans les hôpitaux français lors d'essais cliniques. Vous comprenez cette décision?
Je pense que maintenant, en termes de sécurité d'emploi, ce que l'on dit depuis le début, hein, quand on a déjà commencé à parler de la chloroquine, dès le début, tous les médecins qui utilisent la chloroquine ont émis un signal d'alerte en disant « Attention, ce n'est pas un médicament anodin, comme tous les médicaments ont des effets secondaires, il faut tout le temps, quand on utilise un médicament, faire la balance entre le bénéfice et le risque. » Le problème de la chloroquine, c'est que on n'avait pas jusqu'à présent montré de bénéfice, donc il fallait se mettre en condition pour montrer qu'il y a un bénéfice à prendre la chloroquine. En revanche, comme c'est un médicament qui est utilisé depuis longtemps, on connaissait parfaitement les risques d'utilisation de ce médicament. Et donc, quand le risque devient plus important que le bénéfice, évidemment, quand on est médecin, il y a un adage qui est extrêmement important à suivre, qui est primum non nocere, c'est-à-dire qu'on ne doit pas causer de tort en tout premier. Le tout premier, c'est ne pas causer de tort. On voit bien qu'avec la chloroquine, toutes les études
qui sont publiées montrent... Donc la décision est sage ?
La décision est sage, bien sûr, c'est une décision de précaution. Quand on sait que ce médicament n'a pas encore montré d'efficacité, on ne va pas le prescrire en faisant courir un risque au patient qui ne décéderait pas du Covid, mais va décéder d'un accident cardiaque. Et on a eu, avant toutes ces décisions, des signaux de l'Agence nationale de sécurité du médicament, de la pharmacovigilance en zone PACA, par exemple en Bretagne, en Aquitaine, où des patients sont décédés d'effets secondaires de la chloroquine.
Karine Lacombe, on a beaucoup parlé de décès, bon, décès cliniques, décès. On a beaucoup parlé au mois d'avril en pleine crise du coronavirus et puis on a l'impression que tout a disparu. Où est-ce qu'on en est? L'essai Discovery, par exemple, qui a cessé d'évaluer d'ailleurs l'hydroxychloroquine au passage. Hein,
absolument. Hein, alors, Pour l'instant, c'est suspendu. La plupart des essais internationaux, dont l'essai, le grand essai de l'OMS, ont suspendu l'utilisation de la chloroquine en attendant d'avoir une analyse plus poussée des groupes de patients qui ont été traités par chloroquine, par exemple dans Discovery, mais aussi dans l'essai de l'OMS. Donc, alors où est-ce qu'on en est de ces essais ?
Je crois qu'il y a encore plus de 800 essais cliniques aujourd'hui, qui cherchent à évaluer des dizaines de traitements.
Bien sûr, oui, bien sûr.
Mais où est-ce qu'on en est ?
Non, parce qu'en fait, vous savez, quand on construit un essai thérapeutique, on calcule le nombre de patients à inclure dans cet essai pour montrer une différence entre la prise en charge standard et l'effet du médicament. Plus l'effet du médicament est soupçonné être faible, plus il va falloir inclure de patients pour montrer qu'il y a une différence entre ne rien faire et utiliser ce médicament. Et vous voyez la dynamique de l'épidémie, en fait, vraiment le nombre de patients a été important pendant 4 à 6 semaines.
Oui.
4 à 6 semaines, eh bien, quand les essais sont arrivés à maturité, ont commencé à inclure, l'épidémie, grâce au confinement, avait complètement perdu en intensité. Donc, on n'a pas encore réussi à inclure tous les patients dont on avait besoin pour montrer une différence entre Donc les essais ont pris du retard.
Voilà.
Alors ça, ce sont avec les molécules que l'on repositionne.
Voilà.
Très important. Que l'on connaît déjà. Mais on est en train de développer des médicaments qui vont être vraiment spécifiques du nouveau virus, du SARS-CoV-2. Et là, ça demande plus de temps. On a été dans l'urgence, en fait, pour essayer d'apporter une réponse thérapeutique.
Oui, je comprends. Bien, je voudrais terminer avec le Ségur de la Santé, professeur Lacombe. Je sais pas si vous êtes consulté, j'imagine que vous l'êtes. Que diriez-vous au ministre de la Santé s'il était face à vous ? Que lui demanderiez-vous ?
Alors, je pense que l'un des grands enseignements de cette crise sanitaire, alors on aurait pu, même dans nos rêves les plus fous, on ne pouvait pas imaginer qu'on arrive avec un exemple aussi précis qu'a représenté cette crise sanitaire pour montrer combien l'hôpital est fondamental dans le système de soins. C'est vraiment, je pense, l'un des grands enseignements de cette crise, c'est que quand on donne les moyens à l'hôpital, l'hôpital est capable de faire face à la plus grande crise sanitaire de ces dizaines de dernières années, avec force, avec cohésion. On a montré qu'on était capable de travailler, nous médecins, soignants, avec le personnel administratif, en très grande concordance, avec une très grande efficacité. On a complètement chamboulé le système hospitalier en l'espace de quelques jours, en l'espace de 10-15 jours. On a fait face, je pense, avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup de professionnalisme. Donc, il faut nous donner les moyens de fonctionner.
C'est quoi les moyens de fonctionner ?
Bien, les moyens, arrêter de diminuer le nombre de lits d'hôpital, on a bien vu, on a été obligé d'augmenter nos capacités dans certains endroits à 300% pour faire
face. C'est comme un cri du cœur ce matin.
C'est ça, exactement. Il faut qu'on ait les moyens. Il faut qu'on ait les moyens humains, il faut qu'on ait les moyens matériels.
C'est-à-dire moyens humains, il faut embaucher.
Il faut embaucher, bien sûr, en face des moyens. Il faut mettre des ressources humaines en face des besoins. Oui. Il faut également consolider les interactions entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Il faut favoriser la recherche. On voit bien actuellement pourquoi est-ce qu'on a eu autant de problèmes en France au tout début de l'épidémie. Il y a eu les masques, il y a eu le problème d'accès au traitement, mais aussi parce que la recherche et le développement, on a beaucoup de start-up et puis ensuite la recherche part beaucoup à l'étranger. On manque de grand mécanisme de financement de la recherche avec beaucoup d'argent mis sur la table pour aider les chercheurs à aller vite, pour trouver de nouveaux traitements, pour trouver de nouveaux outils diagnostiques et pour aider dans la recherche épidémiologique. Très important.
Et les rémunérations ?
Les rémunérations, bien sûr. Moyens, ressources humaines, ça veut
vous
aussi dire rémunération.
Vous le voyez, dans votre service, vous voyez, vous, toutes celles et ceux qui ont travaillé pendant cette crise.
Ah bah évidemment, tout le monde est vraiment allé au-delà de ce que l'on imaginait. Et c'est vrai que tout le monde a trouvé en soi-même les ressources pour faire face à cette crise majeure. L'énorme problème que l'on a actuellement à l'hôpital, c'est que l'on n'arrive pas à recruter à l'hôpital public le personnel non médical, c'est-à-dire en particulier les infirmiers, parce que le système de rémunération du personnel non médical à l'hôpital public est bien moins attractif que dans l'hôpital privé. Il faut absolument revaloriser les carrières.
300 euros de plus, ça ne vous paraît pas scandaleux ?
300 euros de plus, c'est même faible. Vu les salaires actuels, une infirmière qui débute, bien sûr, une infirmière qui débute dans la carrière a un salaire qui est extrêmement faible. au regard de ce qu'elle doit fournir comme compétences et de ce que l'on attend comme expertise pour la prise en charge des patients à l'hôpital.
Mais j'espère que vous allez être entendu.
Et j'espère, c'est
Karine Lacombe, parce que vous êtes une
bon
voix. Mais non,
dire.
Mais vous, oui, c'est le bon plateau pour le dire, c'est le bon moment pour le dire, parce que vous êtes écoutée, Karine Lacombe. Quelle expérience tirez-vous? Ce sera ma dernière question de ce que vous venez de vivre. Franchement, à titre personnel et à titre médical.
Je dirais que le personnel et le médical se sont confondus pendant ces 8 semaines de crise intense. Une aventure humaine exceptionnelle, avec une cohésion à l'hôpital que l'on n'avait pas connue depuis très longtemps, un changement radical de métier, la mise en avant de la force du travailler ensemble, en fait, de la force de l'humilité de toutes les équipes qui ont fait face, de cette transformation de chacun, en fait, au contact des patients, au contact des situations douloureuses que l'on a traversées. Et je dirais, oui, ça, la bienveillance avec laquelle on a travaillé, on a pu travailler, la grande humilité. Je pense que c'est une grande leçon d'humanité que l'on
doit
tirer.
Merci, professeur Karine Lacombe. Merci. Il est 8h54, RMC et BFM TV.